Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir à la Bulac pour cette dernière conférence du cycle Littérature en mouvement, édité, dévoilé, traduire l'espace littéraire mondial. Cette soirée, réalisée en partenariat avec les cafés géographiques, s'inscrit dans la continuité des réflexions qui ont été initiées en septembre dernier et notamment dans le cadre d'un précédent mardi de la Bulac intitulé Faut-il habiter le monde pour l'écrire? Au cours de cette conférence, le géographe Michel Lussault et l'écrivain Philippe Vasset se penchaient sur les liens féconds entre littérature et géographie à travers l'expérience littéraire de la ville. Et ce soir, nous vous invitons à explorer Istanbul au prisme de cette géographie littéraire avec nos deux invités, Muriel Rosenberg et Nedim Gürsel. Donc, je vous les présente rapidement. Muriel Rosenberg est maître de conférences en géographie à l'Université de Picardie et membre de l'unité mixte de recherche Géographie Cité. Parmi ses multiples travaux, elle fait plus particulièrement des recherches sur la ville dans la littérature, notamment l'expérience de l'espace, les tensions entre géographie et littérature dans la géographie française. Elle a notamment publié un article sur l'Istanbul d'Orhan Pamuk, modalités et enjeux de l'expérience d'une ville, dans l'ouvrage collectif Lire les villes, panorama du monde urbain, publié à Tours en 2012. Nedim Gürsel est un écrivain qu'on ne présente plus, tant ses romans, nouvelles et ses critiques et récits de voyages écrits en turc et en français comptent pour les amateurs de littérature comme pour les amoureux de la ville d'Istanbul. Il est également directeur de recherche au CNRS, professeur de littérature turque à l'Institut national des langues et civilisations orientales, donc ici même dans ces murs, quelques étages plus haut. Donc ce soir, partons pour Istanbul, que beaucoup d'entre vous connaissent, pour vous y être rendus ou pour en avoir rêvé. Nous sommes tous porteurs d'une géographie qui nous est propre et correspond aux espaces que nous avons traversés, dans lesquels nous avons pu vivre, être au monde. L'écrivain partage son expérience et son savoir géographique personnel, donne une forme et une visibilité particulière aux espaces, laissant une trace qui est aussi une forme de médiation par laquelle le regard du lecteur se tourne du texte vers les espaces qui leur ont donné naissance. Le géographe, lui, observe les phénomènes par lesquels l'homme modifie son espace, mais également les représentations que l'homme s'en fait. Face à Istanbul, cette ville-monde chargée d'histoire, hein, qui fait le pont entre l'Europe et l'Asie, comment transmettre par la littérature cette expérience singulière? Je vais tout d'abord passer la parole à Muriel Rosenberg qui va analyser la façon dont Orhan Pamuk rend présent l'espace dans son récit d'Istanbul et également la façon dont Nedim Gürsel en parle dans son roman La première femme. Puis ensuite à Nedim Gürsel qui évoquera Une journée à Istanbul.
Bien, donc ce n'est pas de géographie urbaine dont je vais vous parler, et ce n'est pas non plus au sens strict de l'espace d'Istanbul dont je vais vous parler, mais de la géographie vécue d'Istanbul à partir de... Oh, ça fonctionne pas. Merci. De la géographie vécue d'Istanbul à partir de La première femme de Nedim Gürsel, publiée en 1983, et de l'Istanbul, souvenir d'une ville, d'Orhan Pamuk, publié 20 ans plus tard. Quand je parle de géographie vécue, je parle donc d'une géographie vécue telle que la littérature peut la saisir, peut la restituer. Je voudrais donc préciser en quelques mots, et notamment pour Nedim Gürsel qui me pose la question, ce que peut être un point de vue ou de lecture d'un géographe en littérature, c'est-à-dire au fond ce qu'apportent des œuvres littéraires à la compréhension géographique de la ville, puisque je suis bien géographe travaillant sur des œuvres littéraires, et donc plus largement ce qu'apporte la rencontre au fond entre la géographie et la littérature. On peut effectivement se poser la question dans la mesure où la ville du géographe, c'est un objet de savoir. La figuration de la ville par l'écriture littéraire, c'est la matière d'œuvre artistique. Comment nouer le dialogue entre ces deux réalités différentes? Comme géographe, je ne lis pas des romans et je n'écris pas à propos d'eux pour y retrouver le savoir élaboré par la pratique scientifique. Donc il ne s'agit pas pour moi de retrouver des catégories de la géographie, d'un espace analysé par un géographe dans la littérature. Cependant, j'y trouve une forme de connaissance, ou si l'on préfère, une pensée de la spatialité, donc de cet espace tel qu'il est vécu, au fond du rapport géographique que l'être humain entretient avec le monde, de son expérience de la condition spatiale de l'existence. Et dans un monde devenu largement urbain, rien d'étonnant à ce que la ville, et la grande ville particulièrement, apparaissent comme ce que j'appellerais le lieu originaire de l'expérience du monde, c'est-à-dire le point de départ de toute expérience, ce que dit précisément le titre de la première femme que l'auteur explicite à la dernière page. La première femme sera à la fois le récit d'un visage rond et pâle, d'une voix limpide, douce comme le déchirement du satin, l'histoire d'Istanbul, de la première peur, de la première faute, du premier mot, en particulier du premier mot. Et de la même manière, dans le roman de Pamuk, jeunesse de l'écrivain et naissance d'une fascination pour la ville sont totalement associés. Jeunesse de l'écrivain, puisque le livre s'achève sur ces derniers mots, « Moi, je serai écrivain ». Et le lien entre la biographie de l'auteur, puisqu'il s'agit bien d'un récit autobiographique, et la ville, est très clairement explicité par Pamuk. « Le lecteur s'est rendu compte, dit-il, que parler de moi revenait à parler d'Istanbul. » De fait, dans ces deux récits, la ville est le vrai sujet. Le parcours d'Istanbul est un parcours de formation, ou plutôt le parcours de formation prend forme et consistance dans le parcours de la ville. Et le travail de l'écriture vise précisément à traduire et à conserver cette expérience. C'est ce que dit Pamuk lorsqu'il parle de restituer quelque chose de l'atmosphère et de l'alchimie de ces rues, ce à quoi précisément je m'attache dans les propos qui vont venir. Autrement dit, comment éprouve-t-on la ville et comment en rendre compte de cette expérience? Comment à la fois la montrer dans la diversité de ses paysages ou de ses ambiances et en saisir l'identité? Ces interrogations rendent compte précisément des questionnements du géographe et les deux textes choisis aujourd'hui y répondent en offrant une sorte de ce que je considère comme un modèle de découverte de la ville, une géographie vécue qui met en tension sensation et signification, expérience et compréhension. L'expérience qui nous est relatée, en effet, bien qu'elle soit un modèle, je le montrerai, n'est pas une abstraction de l'expérience urbaine. C'est la rencontre effective d'une ville, c'est l'expérience de ce lieu et de ces paysages que le narrateur nous dit de regarder et comment les regarder en nous les montrant. Ce qui oriente le narrateur d'Istanbul, là je parle du roman, dans la ville, ce sont des impressions, des lectures et le Bosphore. Si l'on cartographiait son parcours, comme aussi bien celui du jeune homme de la première femme, ce n'est pas un plan de la ville qui apparaîtrait, mais un canevas troué, formé d'îles connues et de blancs. Le parcours fictionnel n'est absolument pas la représentation fidèle d'un parcours authentique, même s'il s'ancre dans une ville réelle dont la toponymie et la topographie sont données parfois avec précision. Il ne correspond pas non plus au cheminement continu d'un promeneur qui explorerait méthodiquement l'espace. Le parcours fictionnel est un dispositif qui figure la façon dont se découvre la ville. C'est en quelque sorte la simulation d'un parcours possible. Cette découverte se fait selon des modalités de cheminement diverses, la flânerie, la dérive, qui évoque évidemment l'expérience de la modernité urbaine. Dans l'Istanbul de Pamuk, comme dans la première femme, ce cheminement peut prendre la modalité d'une passion fusionnelle qui naît du contact sensible avec la concrétude de la ville, arpentée, nous dit Pamuk, frénétiquement, un désir forcené de courir dans les rues qui est dévoré du regard. Je regardais les vitrines, les restaurants, les cafés plongés dans une semi-pénombre, les ponts, les devantures de cinéma, les affiches, les inscriptions, la crasse, la boue, les gouttes de pluie tombant dans les flaques noires sur les trottoirs, les néons, les phares des voitures, les poubelles renversées par les meutes de chiens. Plus significative, à mon avis, d'un premier contact avec une ville inconnue, j'entends par là avec le milieu inconnu que constitue la ville et notamment la grande ville, c'est l'évocation qu'en donne Nedim Gürsel. Sur le trottoir de droite de l'avenue Istiklal, il marche vers le funiculaire. Il s'arrête un moment devant le passage où l'entrepreneur des pompes funèbres tient boutique. Sortant de sa rêverie, il tourne les yeux à droite, vers la sombre trouée. Une longue voie s'ouvre devant lui. Un instant, il songe à la prendre et à monter jusqu'à Tepebachi, pardon, en empruntant l'une des venelles qui débouche sur le passage. Il s'imagine là-bas, attendant en plein vent à l'arrêt d'autobus de Tepebachi. C'est, me semble-t-il, plus proche d'une expérience première, encore que même lorsqu'il s'agit d'une ville moins grande que celle d'Istanbul, par exemple, je pense à Nantes, vue pour la première fois par le jeune Julien Gracq, ou plutôt le jeune Lucien Poiré, si je ne me trompe. C'est l'agitation désorbitée également de la ville qui frappe. Mais cette incertitude au fond du promeneur, qui regarde, qui s'arrête, qui songe, qui rêve, c'est également l'évocation, me semble-t-il, assez authentique de la ville. On comprend ainsi que le paysage contemplé soit très rare dans ces récits. Ce qui domine dans ces deux récits, ce sont des aperçus, des silhouettes, des parfums, des sonorités, des bribes de la ville, banales ou insolites, qui sont saisies dans l'instantané par un corps qui est en mouvement, toujours en mouvement, l'expérience spatiale étant rythmée par une attention donc au moindre signe de la ville. Et on comprend bien que le regard paysager au fond du spectateur soit rarement un regard panoramique et que s'y substitue plutôt le sentiment, la sensation de faire corps avec l'espace, d'être dans le paysage. C'est ainsi que le citadin de nos deux récits éprouve la ville en tant qu'elle est son milieu de vie, un milieu dans lequel est immergé le corps, dont il est partie prenante. Le récit, dès le début, installe le lecteur dans la ville. Il ne la quittera jamais. Istanbul de Pamuk, s'ouvre au milieu du Bosphore, d'où le regard plonge sur la ville par la photographie qui est placée en exergue et qui commente ou qui est commentée par la citation de Racine, « La beauté d'un paysage réside dans sa tristesse ». Il s'achève par une course dans les ruelles sombres du centre. Le lecteur n'aura donc jamais quitté le cœur d'Istanbul. La première femme commence par ces mots. Lorsqu'il déboucha dans l'avenue, la clameur de la ville éclata soudain. Grondement d'autobus, klaxons, coups de frein, brouhaha des voix humaines. Et le premier contact du narrateur avec la ville a lieu dans la rade d'Istanbul, au fond le paysage que nous présente Pamuk, d'où il contemple, et je cite l'auteur, « ébloui, ébahi, ce lieu dont on ne revient pas ». En montrant la ville à partir de la rue et de son cheminement, ces textes nous disent quelque chose, que la ville n'est pas une forme à contempler, mais le lieu de pratiques ordinaires. La ville de Pamuk, ce sont des gens, des foules surtout, en différents moments lieux de la ville, les soirs d'été à l'approche de l'automne, dans le brouillard hivernal, le jour anniversaire de la mort d'Atatürk. Ils sont saisis en mouvement dans le cours de leur vie quotidienne, au retour du travail, du stade, après un match de l'équipe nationale, à l'embarcadère des vapours, dans les tramways bondés, se dépêchant pour ne pas manquer le vapour. C'est une ville qui est pratiquée de façon ordinaire dans l'indifférence à ces monuments. Les konaks sont transformés en bâtiments municipaux, les fontaines de quartier sont pillées, les murailles héritées de Byzance sont délabrées. À rebours, à l'opposé même, d'une muséification qui efface la mémoire des lieux, qui patrimonialise la ville, qui la rend exsangue, nous dirait Julien Gracq, Istanbul est la ville où l'histoire est le cadre de la vie quotidienne. On n'y regarde pas les vestiges des civilisations, on se contente de vivre parmi eux, nous dit Pamuk. Et l'Istanbul de la première femme, de même, accomplit le rêve exprimé par Julien Gracq dans « Autour des sept collines » d'une ville qui ne serait pas un musée, mais un lieu où on mange, boit, dort, fume, rêvasse, passe la sieste, où on accoste les femmes, ce que fait précisément le personnage narrateur de la première femme. La consistance du paysage et sa saveur tiennent donc aux qualités qui définissent les gens et les lieux, ce qui évoque immanquablement, pour le géographe, le paysage vernaculaire du géographe américain Jackson, dont je cite quelques mots, le goût, reconnaissable entre tous, d'une spécialité culinaire ou d'un vin locaux, l'odeur de certaines saisons, le son d'une chanson du pays, ce sont ces saveurs qui font le paysage du quotidien. Et c'est précisément ce paysage du quotidien, fait de gestes et d'actes ordinaires, qui sont des manières d'habiter les lieux, que l'exilé d'Istanbul, je parle de Nedim Gürsel, cherche dans chaque ville où le mène son voyage de ville en ville, ombres et traces, et dont il cherche à fixer le souvenir dans la première femme. Ce souvenir de la ville, de la première rencontre, seul au fond, l'écriture peut le restituer. Et j'ai parlé de géographie vécue, seule l'écriture et la réflexivité qu'elle suppose sur ce qui a été éprouvé permet de transformer précisément le vécu en expérience. C'est pourquoi la littérature, pour comprendre la spatialité, pour comprendre la géographie vécue, la littérature est incontournable. Et c'est précisément une réflexion, une réflexivité sur ce qui a été éprouvé, une réflexion sur la façon dont se forme l'expérience d'une ville, dans l'interaction des sens ou des sensations et de la culture, que développent les deux récits de Gürsel et Pamuk. Le rôle de la culture dans l'éveil d'une sensibilité et la formation d'un regard sur la ville et sur le monde est manifeste dans le texte de Pamuk, puisque les lieux et les livres nourrissent à part égale l'espace vécu du narrateur. De fait, son récit de l'exploration d'Istanbul n'obéit pas à une logique biographique, ou plutôt, la biographie dont il est question, c'est la biographie de la ville, littéraire, picturale, photographique, dont les images du peintre Melling au photographe Aragüler, des écrivains français aux écrivains stambouliotes, médiatisent tout le temps l'expérience du promeneur, oriente son cheminement, oriente son écriture, assurément. En inscrivant ainsi ses pas, dans les traces des promeneurs qui l'ont précédé, c'est-à-dire de leur récit, bien sûr, le narrateur signale que son expérience excède le contact direct et sensible de la ville, qu'elle est informée par la représentation de la ville, textuelle et iconique, qui agit comme une véritable matrice du regard. Une matrice qu'on observe, par exemple, dans l'assimilation par les artistes stambouliotes, non pas de lieu simplement, mais d'une vision, de la vision paysagère, qui leur viendrait des vues du Bosphore, peintes précisément par Melling au début du XIXe siècle. Pamuk nous dit que, avant Melling, les stambouliotes ne regardaient pas les paysages d'Istanbul, ou plutôt ne voyaient pas Istanbul à la manière d'un paysage. De la même manière, l'image mélancolique des faubourgs décrite par Nerval et Gautier, reprise par des écrivains stambouliotes, diffusée par le biais de gravures publiées dans les journaux et plus tard par les photographies d'Aragüler, cette image mélancolique, qui donc a circulé et s'est modifiée, a fondé un imaginaire collectif des faubourgs. Ce sont donc ces images qui à la fois nourrissent le regard et qui nourrissent la représentation de la ville. J'ai parlé d'interaction entre sens et culture. Je voudrais cette fois-ci insister sur la manière dont la forme de l'espace elle-même intervient dans la façon d'appréhender la ville et évidemment de la représenter. La forme de l'espace, c'est-à-dire sa saveur, mais aussi ses structures, ses tensions, ses polarités, oriente la pratique, guide le cheminement. Comme l'écrit le narrateur d'Istanbul, on peut toujours, en fin de compte, aller marcher du côté du Bosphore. Le jeune homme de la première femme, effrayé par la rue des bordels où il s'est engagé, dévale une rue et se précipite vers le pont de Galata. J'ai retrouvé. Offrant son visage au vent du sud, il avait longuement respiré l'odeur de la mer, Le monde était là, devant lui. Les bateaux du Bosphore arrivaient puis repartaient. Des remorqueurs passaient sous le pont, toutes cheminées rentrées. Ce sont les pentes de la ville, et en l'occurrence, toutes ces rues qui mènent vers le Bosphore, qui attirent les pas du promeneur, comme elles attirent l'écriture de son cheminement. Lire une ville, disait l'écrivain géographe Julien Gracq, c'est y chercher des structures qui l'organisent, ses polarités, son système de pente. C'est également y trouver des repères, des modèles et des chemins pour l'imagination. Or, ces repères et ces chemins relèvent à la fois de la subjectivité et de l'objectivité, du sensible et du culturel. Or, le contact sensible avec le monde s'éprouve de manière intense en des lieux particulièrement riches en qualités sensibles parce qu'ils sont eux-mêmes un contact entre des milieux géographiques. C'est le cas du Bosphore qui attire les pas du promeneur de Pamuk, les pas du promeneur de Gürsel et qui attire les photographies d'Ara Güler qui s'insèrent dans le texte de Pamuk. Et du Bosphore précisément, on peut dire qu'il est véritablement, en reprenant les mots de Gracq, le répertoire de lignes et de couleurs des stambouliotes. Il nourrit l'imagination en éveillant les sens. Il donne consistance aux images puisées dans les livres en leur fournissant une forme sensible. Aussi, la géographie vécue de ces citadins est-elle, je parle des citadins fictionnels de ces récits, est-elle bien plus qu'un espace vécu ? C'est, de mon point de vue, un savoir vécu. Un savoir parce que l'expérience est nourrie par une culture qui l'impulse et lui donne forme, qui lui donne de la profondeur. Un savoir vécu parce que la culture est toujours en prise avec l'expérience. Je voudrais revenir à deux photographies qui ouvrent le récit de Pamuk. Une vue d'Istanbul se découvrant du Bosphore, c'est la première que j'avais montrée, et une vue aérienne oblique de la ville qui dirige le regard vers le Bosphore, sa rive asiatique et l'horizon du monde. C'est à celle-ci. Ces deux photographies ne sont pas seulement deux points de vue différents sur Istanbul. Ils le sont, bien sûr. L'observateur regardant vers la ville ou vers l'horizon, elles engagent deux visions et deux imaginaires. Ce qui est montré de la ville dans la vue panoramique, invite à imaginer tout ce qui est masqué, à la découvrir au-delà du paysage qui la représente. La vue perspective ouvre la ville sur l'horizon du monde, la figure comme une utopie, puisque dans ce type de représentation, le regard embrasse tous les parcours possibles. Deux visions et deux imaginaires qui disent l'entre-deux d'Istanbul, ni tout à fait occidental, ni tout à fait oriental, se découvrant dans le regard des écrivains européens et dans le regard des écrivains stambouliotes. Le jeu de ces deux images produit un décentrage constant du regard, d'où résulte une vision à la fois interne et externe sur la ville. Istanbul oscillerait en quelque sorte entre un milieu de vie éprouvé et un spectacle observé, relevant ainsi d'une géographie objective et d'une géographie vécue tout à la fois. Et précisément, le Bosphore est le lieu où s'acquiert ce regard décentré sur le monde. C'est par lui que s'est infiltrée l'Europe dans Istanbul grâce aux bateaux à vapeur, et en retour, le monde stambouliote dans le regard des voyageurs par le biais de leurs écrits, de leurs peintures et plus tard de leurs photographies. C'est le Bosphore qui unit le passé et le présent, qui fait pénétrer dans les vestiges d'un monde disparu, ou qui donne à voir la ville qui se transforme, sa croissance et son désordre, qui donne donc à éprouver le temps. Tu as toujours existé, Istanbul, je donne la parole à Nedim Gürsel. Tu vivais dans une durée sans avant ni après. Tu t'appelais Constantinople. Les années et les siècles se succédaient ainsi. Toi seul étais immuable, parce que tu avais toujours existé, à la jonction de trois mers. Tu eus pour nom Lygos, Byzance, tu t'appelas la porte de la félicité, la maison du califat, la sublime porte, et Istanbul, ce qui veut dire la ville, oui, la ville. Istanbul, la ville qui donne à éprouver le temps, parce que, comme bien des villes, mais peut-être davantage, elle est, comme dit le géographe, affleurement de multiples durées. Et, par l'écriture, elle est mise hors du temps, elle est monument au sens que lui donnent les littéraires, au sens du mot que lui donnent les littéraires. Monument, donc, ce qui reste et non pas patrimoine. Mais j'ai évoqué en introduction la question de l'identité de la ville. On la voit dès à présent dans le Bosphore, j'y reviendrai, mais on peut se poser une question. Dans cette expérience, au fond, recomposée par l'écriture, qui produit l'image de fragments de la ville, du désordre, du chaos, peut-on, au fond, parler véritablement d'une identité de la ville ? Je voudrais évoquer un paysage qui est rencontré dans les deux récits, un paysage de la Corne d'Or, et qu'on lit en plusieurs occurrences dans le texte de Pamuk, qui est relayé, développé par des photographies d'Ara Güler. Ce paysage, le voici. Le grouillement des petites fabriques, des ateliers, des cheminées, les dépôts de tabac, les églises byzantines à l'état de ruine, les plus majestueuses mosquées ottomanes mêlées aux bicoques et aux étroites ruelles au bord de l'eau, les raidillons, les collines obscures, les arsenaux, les cadavres rouillés de bateaux, les quartiers pauvres. Ce paysage est un paysage hétéroclite de la Corne d'Or. Or, dans ce paysage hétéroclite, il faut voir un modèle paysager. Un modèle paysager qui définit en quelque sorte l'identité d'Istanbul. Pourquoi je parle de modèle paysager ? L'usage à valeur généralisante de l'article défini est un indice. Dans cette description, il s'agit moins d'impression paysagère que d'une composition. Et la composition évoque bien le paysage social tel que le définit un autre géographe, Marcel Roncaiolo, à la fois une forme, un site, au bord de l'eau, les collines, un lieu aménagé, des bâtiments industriels, militaires, des édifices religieux, des habitations, je n'ai pas donné l'ensemble de l'extrait, une photographie, des étroites ruelles, des raidillons, les phases de l'occupation humaine, des églises byzantines, des mosquées ottomanes, des bâtiments industriels en fonctionnement ou abandonnés, se lisent aussi des pratiques et des représentations, l'abandon d'un lieu de culte par la domination d'une nouvelle religion, des églises en ruine, des mosquées majestueuses, l'indifférence au patrimoine, des bicoques qui côtoient les plus belles mosquées, se lit enfin une géographie sociale, les quartiers pauvres, contigus au rejet de la société industrielle, les cadavres de bateaux. Ce paysage stambouliote illustre en quelque sorte le concept de paysage social, sans en l'illustrant. Ce paysage social, que définit le géographe Roncaiolo, définit la ville. Cet hétéroclite que j'ai évoqué définit non pas seulement Istanbul, mais au fond, toute ville. Pourquoi ? Ce qui définit la ville, nous dit Marcel Roncaiolo, c'est qu'elle est un composé de formes, de pratiques et de représentations décalées. Je parlais tout à l'heure de l'affleurement de multiples durées. C'est une mémoire, au fond, spatialisée. Mais, et c'est une question importante pour le géographe, si l'hétéroclite caractérise la ville en général, toute ville. Alors, comment l'hétéroclite peut-il signifier aussi l'identité propre d'une ville, sa singularité, comme nous le montre Orhan Pamuk ? Comment peut-on dépasser le modèle qui rend compte d'une réalité décrite par l'activité scientifique pour saisir la façon dont il s'exprime dans un lieu particulier, le lieu qui est le monde précisément de l'existence pour chacun ? Eh bien, Pamuk, comme d'autres écrivains, nous donne la réponse en incarnant l'identité dans un lieu, le Bosphore en l'occurrence dont nous avons déjà parlé, et dans un paysage ambiance, le Usun dont je vais parler, c'est-à-dire en évitant, comme le dit Italo Calvino, l'abstraction de la théorie et l'apparence trompeuse de la réalité, l'écrivain réussit à dépasser cette opposition du modèle et de l'unique, du cas général et de la singularité. Du Bosphore, vous l'avez bien compris, puisqu'on en a parlé, le Bosphore, est véritablement ce qui condense l'identité d'Istanbul. C'est le lieu privilégié du regard. J'ai évoqué les photographies de Ara Güler. On peut toujours, en fin de compte, aller marcher du côté du Bosphore, nous dit Pamuk. C'était le Bosphore qu'on apercevait en arrière-plan. J'ai aussi appris en regardant le Bosphore entre les immeubles de Tsihangir et il poursuit. Cette image me semble intéressante. De toutes les fenêtres d'Istanbul, on regarde le Bosphore. Elles sont tournées vers lui. Il est le lieu d'où se regarde et se découvre Istanbul. Il est le lieu, je l'ai évoqué tout à l'heure, par où s'est infiltré le regard européen sur la ville. Il est le lieu privilégié de la représentation textuelle et iconique de la ville, non seulement dans les deux récits que j'ai évoqués, mais au fond dans l'ensemble, je dirais, du patrimoine littéraire consacré à Istanbul. Par là même, le Bosphore est le lieu où s'acquiert un regard décentré sur le monde, une mise en perspective du monde, un regard décentré, ce qui est le propre de la culture. Le Bosphore, ai-je dit, est le lieu qui condense l'identité d'Istanbul. L'identité de la ville, comment Pamuk la définit-il ? Par, au fond, une ambiance, par une âme, par ce qu'il appelle le usun. L'identité de la ville, c'est l'âme de ses rues, cet esprit des choses qu'on ne remarque pas au premier abord et qui résiste au temps. Le paysage, ce sont des gens et des lieux, c'est un état d'esprit. Cet état d'esprit, précisément à Istanbul, on l'appelle le usun. Pour en parler, il faut avoir, écrit Pamuk, la capacité de voir les lieux et les moments où le sentiment lui-même se mêle à l'environnement qui le communique à la ville. Parler du usun, c'est donc décrire non pas une vue paysagère, mais son expérience. L'expérience d'un sentiment qui unifie un lieu et des gens. L'expérience de ce que j'appellerais un lieu, moment, sentiment. C'est-à-dire qu'il s'agit par là même de décrire une ambiance qui se voit dans l'état d'usure et de délabrement de tout, des balançoires cassées dans les parcs déserts, dans l'absence de couleur, sinon celle de la rouille et de la suie, qui s'incarne dans des événements anodins, dans les défaites répétées de l'équipe nationale de football, dans le vol des cigognes au-dessus du Bosphore, j'ai cité bien sûr Pamuk. La consistance des lieux tient donc aux gens. Les gens font partie des lieux, ce qui signifie que les gens sont toujours spatialisés, pas seulement localisés, mais accomplissant là et pas ailleurs un acte de leur vie quotidienne. Aussi, les gens évoqués par Pamuk, qu'on retrouve en partie également chez Gürsel, ce sont des foules d'hommes pêchant sur le pont de Galata, des marins qui nettoient les vieux vapours du Bosphore, des migrants qui attendent sur le quai de Galata. Les lieux sont donc qualifiés par les gens. Galata est associé aux migrants, aux pêcheurs, aux vendeurs de simites. Les rues étroites sont associées aux enfants qui jouent au football. Le paysage n'est jamais extérieur aux hommes. Il n'est jamais objet de spectacle. Il est le monde de l'existence ordinaire. Aussi, et contradictoirement à ce que j'ai dit, dans les pages où Pamuk définit le usun sur sept pages qui se succèdent sans une virgule, on dirait Proust dont nous parlions tout à l'heure, la présence du Bosphore ne doit plus rien au regard. Il est devenu partie intégrante de la vie quotidienne. Les vapours, le bruit des sirènes, le brouillard. Avec ce paysage, on aura reconnu finalement les traits du paysage du quotidien que j'évoquais tout à l'heure, ou du paysage vernaculaire du géographe américain que je citais tout à l'heure. Le Bosphore, avec ce paysage, qui est évoqué dans le récit par une culture ô combien lettrée, est intégré finalement à la culture commune, aux deux sens du mot. Une culture à partager, une culture qui est celle de chacun. Le paysage ainsi défini, une ambiance qui unifie des gens et un lieu, un paysage qui oriente tous les regards, le Bosphore, les lieux et les usages qui forment les images de la vie quotidienne, c'est tout cela qui fait l'identité d'une ville, sa couleur propre, qui résiste au temps, par quoi elle est reconnaissable et non réductible à un modèle. Pourtant, en cherchant à ressaisir l'image d'une ville, sa singularité, C'est la ville, en général, que vise l'écrivain, dans la mesure où ce lieu singulier qu'est Istanbul renvoie à un modèle culturel et à un modèle de civilisation. Mais ce modèle, ça n'est pas celui des études urbaines, qui rend compte du fonctionnement de l'espace, c'est un modèle de la spatialité et qui pose une question cruciale, qui interroge tout le monde et non seulement le géographe, dans un monde, une question cruciale dans un monde qui, en s'uniformisant, détruit la mémoire des lieux et préfère le haut lieu au lieu vrai, le vrai étant l'Istanbul de Pamuk et de Gürsel. Je vous remercie. Peut-être été un peu longue. J'ai pas été trop longue.
Il y a donc autour de Nedim Gürsel, donc de nous parler d'Istanbul à travers d'une longue journée.
Eh bien, je voudrais tout d'abord remercier Bulak d'avoir pensé à moi pour parler d'Istanbul. Il est vrai que j'ai souvent parlé d'Istanbul. Peut-être que je n'ai pas tout dit sur cette ville que je porte en moi. Je voudrais aussi remercier Muriel Rosenberg d'avoir si bien parlé d'un de mes romans qui s'appelle « La première femme ». Mais surtout de nous avoir réunis, Orhan Pamuk et moi, ce qui est une chose rare, étant donné nos relations. Mais ça, c'est un autre sujet. Je ne suis pas natif d'Istanbul, comme Orhan. Je suis né à Antep, Gaziantep, plus précisément, qui se trouve à la frontière syrienne. Mais je ne suis pas originaire de cette région non plus, mes parents était nommé professeur au lycée de Antep à la fin des années 40. Je n'ai aucun souvenir de Gaziantep et j'ai passé mon enfance dans une ville de province qui s'appelle Balıkesir où aucun touriste ne va. Les années ont passé et j'ai parlé de cette ville dans un de mes récits autobiographiques qui s'appelle « Au pays des poissons captifs ». Et dans ce livre, j'ai cité un poème que j'avais écrit quand j'étais donc élève à l'école primaire de Balıkesir, en troisième, je crois. Donc je devais avoir 9 ans. Et ce poème parlait d'Istanbul que je n'avais pas vu encore. Il s'intitulait même « En quittant Istanbul ». Mais c'était prémonitoire. Car les années ont passé et j'ai été contraint de quitter Istanbul. Dans ce poème, j'avais imaginé que j'allais quitter Istanbul que je n'avais pas vu. Et je cite tous ces lieux, le Bosphore, le pont de Galata, etc. Et je disais, je cite de mémoire, mais quelle tristesse de quitter cette si jolie ville, etc. Et je suis venu à Istanbul à 12 ans pour faire des études au lycée francophone d'Istanbul, le lycée de Galatasaray, dont j'ai aussi parlé pas mal, notamment dans mon dernier roman qui n'est pas encore traduit en français. Et j'ai quitté très tôt cette ville finalement, quand j'avais 20 ans, comme je l'avais prédit dans ce poème écrit à 9 ans. C'est, je crois, Paul Nizan qui dit dans ce très beau livre, Aden Arabi, j'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. C'était un peu mon cas, car je venais de faire mes premiers pas en littérature et il y avait une revue à laquelle je collaborais à l'époque, qui s'appelait les Amis du peuple, Halkın Dostları. Vous allez me dire que ce n'est pas un titre innocent, mais l'article que j'avais publié à cette époque portait sur Gorki. Et il y a eu ce que nous appelons curieusement le mémorandum des généraux, le 12 mars 1971, qui était un vrai coup d'État militaire. Et le procureur militaire demandait 7 ans et demi de prison pour cet article paru dans Amis du Peuple sur Gorki. Alors, j'ai quitté Istanbul, je suis venu en France. Et bon, ça, c'est une autre histoire. C'est pour vous dire que mon intervention d'aujourd'hui sera un peu moins analytique que celle de Muriel Rosenberg et un peu plus descriptive. En fait, je préfère improviser. Istanbul est devenu un thème redondant dans mes livres. J'ai des choses à dire sur cette ville, notamment au mythe littéraire. À propos du mythe littéraire de la ville, j'ai des choses à dire. Mais je me demande si j'en aurais tellement parlé si je vivais à Istanbul. Probablement non. Comme dit ce grand poète mystique de Bursa, « O mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. » Il parle des poissons qui sont dans l'océan et ils n'ont pas la conscience de leur environnement. Ils ne savent pas ce qu'est l'océan. Il faut sortir de l'eau pour avoir une conscience de ce que fut justement cet environnement. Et ça a été, je crois, un peu mon cas, car cet amour que j'ai pour Istanbul, cette nostalgie que j'ai cultivée dans mes livres, sont venus après parce que, justement, je n'étais plus istanbouliote, j'étais plutôt parisien. Et à une époque difficile de ma vie, Paris m'a accueilli. Mais en même temps, la ville de Paris m'a donné cette nostalgie d'Istanbul. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai rédigé aussi un texte. Donc, je ne vais pas improviser, alors que je suis en train d'improviser quand même. Vous voyez, je vais essayer de faire les deux. J'ai un peu triché en rédigeant ce texte, parce que quand Istanbul a été capitale culturelle de l'Europe, le journal Le Monde m'a demandé un texte. Alors j'ai écrit un texte pour Le Monde qui est paru à cette époque, il y a quelques années. Donc j'ai un peu repris ce texte paru déjà dans Le Monde, et puis un autre texte plus long que la revue Géo m'avait demandé. Mais Géo m'avait demandé de parler d'une journée, c'est-à-dire ce que je fais à Istanbul, car ma ville m'a été interdite pendant mes années d'exil. Mais après, les choses se sont arrangées, j'ai été acquitté pour ce procès, mais j'en ai eu d'autres depuis. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais ma vie s'est passée un peu entre Paris et Istanbul. Notre maison de famille qui se trouve sur la rive asiatique du Bosphore, à Anadolu-Hisarı, a été le cadre de plusieurs livres que j'ai écrits sur Istanbul, notamment le roman du Conquérant. Alors, pour les lecteurs de la revue Géo, j'ai rédigé un petit texte où je parle de ma vie quotidienne à Istanbul. Et donc, j'ai fait la synthèse de ces deux textes déjà publiés. Comme ça, j'ai de quoi pour vous parler de la ville d'Istanbul d'une manière assez précise. Mais c'est une expérience que je vous soumets, celle d'un écrivain qui n'est plus istanbouliote, mais qui il va souvent et il lui arrive aussi d'y séjourner. Et alors, voilà ce que ça donne. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce texte, c'est ce que nous allons faire plus tard, c'est-à-dire l'échange sur cette ville qui a fait couler tant d'encre. On ne parle pas seulement des grands écrivains voyageurs comme Nerval, Loti, le chantre d'Istanbul, bien sûr. Mais j'ai été voir la semaine dernière la maison de Flaubert. D'ailleurs, il ne reste rien de la maison de Flaubert à Croissy, mais juste ce qu'ils appellent un pavillon. Et Flaubert a été à Constantinople à l'époque, parce qu'il fallait passer par là. Et Flaubert n'a rien écrit sur Istanbul, à ma connaissance, mais dans ses lettres, il en parle. Il parle surtout des quartiers réservés de la ville de cette époque. Et comme la première femme, en fait, Flaubert parle de manière très grossière de la ville d'Istanbul, car il ne pensait pas que ses lettres allaient être publiées un jour, notamment celles qu'il a adressé à Louise Collet, sa maîtresse. Alors, donc, il reste encore pas mal de choses à dire sur Istanbul, mais ça, nous allons le faire tout à l'heure ensemble. Alors, voilà ce que donne mon texte. Rédigé, disons, un peu pour les lecteurs d'une revue qui touche un grand public. Donc, il n'y a pas beaucoup de phrases proustiennes. Il m'arrive d'en faire de temps en temps, et je dirais aussi bien qu'Orhan Pamuk d'ailleurs. Mais bon, ici c'est un autre style. Longtemps je me suis levé de bonne heure. Mais voilà, on ne peut pas quitter Proust, voyez. C'était à Istanbul, sur la rive asiatique du Bosphore, dans ma ville bien-aimée qui m'a suivi partout, et dont le souvenir, tel un fer rouge, est à jamais planté dans ma mémoire. Tous les matins, je me levais à l'heure de la prière pour écrire. Depuis longtemps, ce n'est plus le cas, mais j'entends la voix du muezzin de la mosquée d'Anadolu Hisarı qui parvient jusqu'à mon lit. Il a une voix métallique et parfois rauque, comme si elle venait du fond des âges. Il paraît qu'un jour, son portable a sonné alors qu'il était en train de chanter. Les mauvaises langues du quartier disent qu'il a cessé l'appel à la prière pour répondre. Je n'en sais rien, mais je dois avouer que je ne suis pas aussi matinal que lui. Je me lève beaucoup plus tard, disons vers 9 heures. Comme l'indique son nom, Anadolu Hisarı, la forteresse d'Anatolie, est un quartier qui se trouve sur la rive asiatique du Bosphore. La plus vieille forteresse de la ville, construite au XIVe siècle par Bajazé, dit la foudre, se dresse tout près de ma maison. En fait, il s'agit d'une autre maison de famille où je passe l'été, souvent seul, car ma femme et ma fille partent au bord de la mer dans le sud de la Turquie. Anadolu Hisarı est un lieu idéal pour écrire. En face, à 600 mètres très précisément, c'est l'endroit le plus étroit du Bosphore, se trouve une autre forteresse, Rumeli Hisarı, la forteresse de Rumeli, construite par Mehmet II, que nous appelons le conquérant, le sultan le plus emblématique de l'histoire ottomane. Le deuxième pont sur le Bosphore qui porte son nom, bien qu'il soit construit par les Japonais, enjambe les deux rives et les relie. En fait, il ne relie pas seulement les deux rives du Bosphore, ni l'Asie et l'Europe, mais aussi l'Occident et l'Orient. Le pont du conquérant relie désormais les hommes entre eux, loin de l'esprit de conquête. Il se dresse en face de chez moi comme le symbole de la rencontre des civilisations et non de leur choc, même si le dialogue interculturel est parfois difficile dans notre monde désormais globalisé et armé jusqu'aux dents. Ma journée commence donc dans ce cadre très stambouliote, pour ne pas dire ottoman, et les bateaux qui passent sous ma fenêtre rythment mon travail. Il arrive parfois qu'ils heurtent les yalı, ces vieilles demeures ottomanes, mais c'est une autre histoire. Pourtant, je ne m'irais pas me réveiller un jour avec un de ces gros pétroliers russes dans ma chambre à coucher. Je préfère la voix du muezzin. Cette voix m'a longtemps poursuivi comme la silhouette d'Istanbul avec ses lignes courbes et verticales, ses coupoles et minarets chantés par tant d'écrivains depuis Pierre Loti. Quant à moi, Comment pourrais-je évoquer en quelques mots cette ville magnifique, fondée à la jonction de trois mers, sinon par ses noms nombreux, dont chacun correspond à une époque bien précise de sa longue histoire. Elle s'appelait Lygos, et l'eau qui la cernait par trois côtés était limpide, et les poissons y scintillaient. Les arbres bruissaient dans ses forêts. Elle s'appelait Byzance, et à la pointe de sa péninsule, elle était une toute petite cité, avec son acropole, son agora, ses bains, ses statues en bronze de divinité. Elle s'appelait la Nouvelle Rome, avec ses portes, ses monuments de Porphyre, sa colonne de Constantin, son immense hippodrome dont les chevaux aux crinières d'airain se cabrent désormais devant les hordes de touristes qui grouillent sur la place Saint-Marc à Venise. Elle était une ville romaine fastueuse, des bateaux déchargés du marbre et de l'or sur ses quais. Elle s'appelait aussi la porte de Félicité, et les prières des musulmans résonnaient dans Sainte-Sophie. Elle s'appelait la maison du califat, et des blocs de pierre blanche y étaient taillés, le plomb fondé dans d'énormes chaudrons, des faïences où bluissaient des prés et où épanouissaient des tulipes et des fleurs de grenadier cuisées à la flamme des fournaises. Les volumes, les proportions, la coupole, les voûtes de la mosquée Suleymaniye s'ébauchaient dans l'imagination de l'architecte Sinan. Une foule d'Albanais, de Bosniaques, de Grecs, de Juifs, d'Arméniens, de Turcs, d'Arabes, de Circassiens, de Georgiens, grossis par l'apport des Génois et des Vénitiens, envahissaient les bazars. Les aveugles se guidaient d'après les odeurs d'épices. Les navires chargés de froment cinglaient vers Venise, Gênes et Marseille. Elle s'appelait la Sublime Porte, et parait de leurs lourds turbans et de leurs caftans aux pans aériens, vizirs, pachas, amiraux de la flotte, trésoriers, dignitaires, religieux étaient reçus en audience. Renversant leurs marmites, les janissaires réclamaient des têtes. Les princes du sang étaient étranglés dans ces geôles. Les sultanes mères, les épouses, les favorites, les odalisques et les eunuques noirs se taisaient au fond du harem. Aujourd'hui, héritière de toutes ces strates de civilisation, elle s'appelle Istanbul, c'est-à-dire la ville. Depuis que des Mégariens abordèrent ses rives et, obéissant à l'oracle de Delphes, s'installèrent sur la presqu'île que nous appelons aujourd'hui Kadıköy, et même bien plus tôt, à partir de l'époque où, pour échapper aux fauves des hommes préhistoriques, construisèrent des cabanes de roseaux, là où les eaux douces d'Europe se jettent dans la Côte d'Or, Istanbul a toujours existé. Mais, curieusement, c'est à Paris, au réveil d'un songe, à la lumière de ma lampe qui s'abattait sur les feux blanches, ou ailleurs, pendant mes interminables voyages à travers le monde, que j'ai souvent retrouvé cette ville. Il ne s'agissait pas d'un lancinant souvenir qui planait, ni d'un remords, mais d'une ville réelle où j'avais grandi et détruit ma vie avant de m'exiler à Paris, comme dit Kavafis, le poète grec d'Alexandrie dont la famille était originaire d'Istanbul. De nouveaux lieux, tu n'en trouveras point, ni d'autres mers. La ville te suivra. Et la ville me suivait. Maintenant que j'ai de nouveau la possibilité d'y aller après des années d'exil, d'effleurer ces trois mers et les remous de la Côte d'Or, de caresser ces tours, ces dômes, ces minarets, de frotter mon visage sur ces remparts, ces murs noircis, d'embrasser les deux rives du Bosphore en forme de lèvres entrouvertes, d'escalader ces collines et ces donjons, de me reposer enfin à l'ombre de ces platanes après tous ces ébats amoureux, maintenant que je peux la posséder après une si longue absence, que puis-je dire d'elle sinon mon désir inassouvi de cette veuve encore pucelle après 1000 épousailles, selon l'expression du poète turc Tevfik Fikret. Je l'ai souvent contemplée du jardin arrière du lycée de Galatasaray où j'étais interne, privée en quelque sorte de ses lumières et de ses rumeurs qui me fascinaient. Istanbul était là, sous mes pieds. Les îles des princes se trouvaient à l'horizon. On voyait l'embouchure du Bosphore, la pointe du Serra et la Condor, puis le pont de Galata et la place des Mineneux. Tout était à sa place, comme dans le poème de Yahya Kemal, que j'avais appris par cœur en classe de terminale. Hier, cher Istanbul, d'une hauteur je t'ai contemplé, pas un lieu que je n'eusse visité, adoré. Je dois dire que pendant mes années d'internat, je fus ébloui, mais de loin, par sa fameuse silhouette de coupole cendrée et de minaret. Je me souviens encore de la forme d'une ville qui apparaissait à mesure que le brouillard matinal se dissipait, des cyprès dans les cimetières, des petites coupoles du palais de Topkapı et de la tour effilée de Beyazıt. Je me souviendrai toujours de la rive d'en face, qui était à peine visible, et du quartier d'Üsküdar plongé dans un vide imprécis. De la tour de Léandre aussi, dont le blanc sale se distinguait peu à peu dans les vapeurs qui s'élevaient de la mer couleur de pourpre. Une lumière rouge clignotait à son sommet. Édifices, arbres, avenues et rues escarpées se profilaient tandis que se levait la brume. Je me souviens encore des premiers autobus du matin, des premiers voyageurs, de la première fumée du bateau, du vacarme de la ville qui allait commencer le jour naissant, de ce tumulte inquiétant, continu, propre à rendre fou quiconque qui n'est pas habitué. Pourtant, quand j'avais débarqué d'Anatolie à 12 ans pour faire mes études au lycée de Galatasaray, je n'avais pas vu cette silhouette, l'apparition des dômes et des minarets sur l'horizon net de la mer qui a fait dire à Jean Thévenot que c'était la plus belle situation qui soit au monde et que Chateaubriand, Lamartine, Nerval et Gautier ont décrit avant Lothier. J'avais vu une masse sombre dans la brume qui prenait la forme d'un monstre surgissant de la mer, tandis que le bateau s'approchait du port. Alors j'avais fermé les yeux pour ne plus voir l'énorme gueule de la bête aux crocs acérés et l'éclat des flammes redoutables qui s'échappaient de son gosier. Finalement, la ville m'a englouti durant mes années d'adolescence. Les années ont passé. Ayant fait des études de lettres modernes à la Sorbonne, puis un doctorat en littérature comparée, je n'avais pas la moindre idée des péripéties de la chute de Constantinople, ni des innombrables combats qu'il avait fallu livrer pour que la ville se rendît. J'ignorais qu'au début du siège, le redoutable canon fondu par Orban avait été tiré péniblement par 50 paires de bœufs et 400 artilleurs jusqu'à la porte de Caligaria, et qu'il avait éclaté en volatilisant ceux qui se trouvaient autour, après que plusieurs tirs eurent ouvert de profondes brèches dans les murailles. Je n'avais pas eu vent non plus des nuits désespérées de Mehmet II, de ses cauchemars, de la ténacité de Zahanos Pacha qui avait permis le prolongement du siège, du déluge de flèches, de boulets, de pierres s'abattant sur l'armée ottomane, des cadavres de janissaires amoncelés dans les fossés au pied des remparts. Comment aurais-je eu connaissance de l'énorme chaîne pesant des tonnes que les assiégés à hauteur de Galata avaient tendue entre les deux rives de la Condor pour repousser la flotte ottomane, du soutien apporté à Byzance par les Génois et les Vénitiens, du mystérieux feu grégeois qui enflammait même les flots? Ce n'est que des années plus tard, loin d'Istanbul, que j'ai pu enfin maîtriser l'histoire de ma ville grâce aux livres que j'ai dévorés à la bibliothèque de la Sorbonne et à la bibliothèque des langues orientales de la rue de Lille à l'époque. Et si je parle aujourd'hui de sa conquête, de son histoire récente par rapport au règne millénaire de Byzance, c'est pour dénoncer ce mythe fondateur dont se réclament encore quelques nationalistes. Face au rejet de la Turquie par la majorité des Européens, le nombre des nationalistes augmente, hélas, de jour en jour. Istanbul sera bientôt, à l'époque, quand j'avais écrit ce texte, la capitale culturelle de l'Europe. Il serait paradoxal, voire incongru, de se préparer à cette échéance dans un esprit de conquête et de fierté nationale. Que serait aujourd'hui l'Europe sans Istanbul, alors qu'elle vient d'intégrer la Bulgarie et la Roumanie, deux pays dont le destin s'est pendant longtemps confondu avec celui de la Turquie? Devenue la ville la plus peuplée du continent, construite à la jonction de deux mers et de deux civilisations, à cheval entre l'Orient et l'Occident, l'ancienne capitale des sultans continue d'atturer, comme à l'époque glorieuse de l'Empire ottoman, les populations des pays voisins, tandis que certaines villes européennes perdent leurs habitants et paraissent bien fades. Je ne peux m'empêcher de penser à l'avenir d'une Europe qui laisserait Istanbul hors de ses frontières. Ainsi, rejeterait-elle une partie importante de son patrimoine historique et culturel. Sans cette mégapole effervescente qui ne cesse de se développer, de se européaniser tout en conservant l'héritage de son passé impérial, la vie citadine serait bien triste dans une Europe vieillie. Mais je reviens sur la rive asiatique du Bosphore où se déroulent mes journées tranquilles à Istanbul. Après le petit déjeuner, vraiment turc avec le thé bien foncé, les olives, le fromage blanc et toutes sortes de confitures, j'écris donc tout en regardant passer les bateaux. À midi, je sors pour déjeuner dans le petit restaurant qui se trouve sur la berge de Göksu, où l'on me reçoit comme un roi, car je suis un client parfait qui mange ce qu'on lui propose. Il y a dans ce petit restaurant de notre quartier si peu à manger par rapport aux autres restaurants qui sont, eux, au bord du Bosphore. Göksu sent mauvais. C'est une rivière polluée depuis longtemps. Mais au début du siècle, Pierre Loti s'y promenait en caïque et parlait d'une eau transparente, la plus belle de la rive asiatique. En effet, Göksu, eau bleue pour les Turcs, s'appelle pour les écrivains voyageurs venus de l'Occident les eaux douces d'Asie. L'après-midi, rien de nouveau sous le ciel d'Istanbul. L'écrivain travaille. Et travailler fatigue, comme disait Cesare Pavese. Alors vient l'heure de la sieste, pendant laquelle les fantômes de ce vieux quartier d'Istanbul me hantent. Il s'agit en fait de femmes qui contemplent notre rue depuis leurs fenêtres grillagées, comme dans les récits d'autrefois. Qu'un brocanteur passe en criant « J'achète la brocante » ou un vendeur de colis fichés, un marchand d'eau, un camelot porteur de remèdes miracles, ou que sais-je encore une voix qui porte en elle l'atmosphère passée de ces ruelles tortueuses et escarpées, jamais elle ne manque de le faire entrer. Je ne sais pas très bien si elles achètent de la brocante ou de l'eau, la plus savoureuse de ces eaux de sources si variées d'Istanbul. Ne me dites pas que vous ignoriez que l'eau eut un goût, car à cette époque, chacune avait sa saveur et son odeur. Elles achètent peut-être du fil de soie, des boutons, des épingles pour ravauder les accros des vêtements de leur mari, des bagues ou du gingembre. Qui étaient-elles en réalité? Que faisaient pendant toute une vie ces femmes aux voiles noirs du vieil Istanbul? Offraient-elles, comme ma grand-mère, leur charme à un seul homme? À Setüsü-Sokak, il n'y a plus de femmes voilées. Depuis longtemps déjà, les brocanteurs et les colporteurs ne passent plus. Mais le marchand d'eau et le chiffonnier continuent de sonner à notre porte tous les deux jours. À vrai dire, tout au long de l'été, c'est alors que la rue prend des airs d'autrefois. Des murailles doucement remplacent les fenêtres ouvertes. Enfant, je croyais que les maisons avaient un visage. Des années plus tard, ces visages se sont confondus avec celui de ma mère qui repose sur les rives de Göksu. Il me poursuit sans répit chaque fois que je jette l'ancre quelque part, que je m'établis dans un lieu pour tromper la malédiction de mon errance. Assurément, c'est le visage de celle qui a attendu mon retour sa vie durant. Le soir descend lentement sur le Bosphore. Les nuages passent avec les bateaux. Le vent qui se lève pousse les nuages vers les coupoles et les minarets. J'entends de nouveau la voix du muezzin qui appelle à la dernière prière. Pour moi, c'est l'heure du rakı et non de la prière. Le premier verre pris ouvre les portes de la nuit. Bien sûr, je ne travaille jamais la nuit. car à Istanbul, la nuit est tendre et pleine de mystères, de volupté aussi. Surtout dans le quartier de Beyoğlu, qui était jadis cosmopolite avec ses communautés grecques et juives, dont il ne reste plus rien aujourd'hui. Une foule masculine, tendue, irritable, a envahi les rues. Les minorités sont parties, le nombre des fidèles qui fréquentaient les églises à tuiles rouges et le synagogue adossé au bordel a bien diminué. Heureusement que la pâtisserie Marquise, qui faillit céder la place à une boutique de pièces détachées pour voitures, existe encore avec ses panneaux de faïence d'art nouveau. Le club 360 aussi, dont la terrasse surplombe les toits de Beyoğlu, et où l'on boit le meilleur café turc d'Istanbul. Alors, le lendemain, je ne me leverai pas de bonne heure pour écrire. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Alors, pour débuter l'échange sur cette ville, Muriel, qu'avez-vous pensé donc, de ce récit, de cette journée ?
Moi, je voudrais poser une question à Denis Lurcel. Il a évoqué son attachement ou la conscience de son attachement à Istanbul. Oui, pardon.
Donc, Nedim Gürsel a évoqué la prise de conscience de son attachement à Istanbul une fois qu'il en était parti. Moi, ce qui m'a frappé dans ce qu'il a évoqué, c'est des réminiscences de Julien Gracq à Nantes, interne comme vous, cloîtré, et qui pressent la ville aux portes du lycée et qui la désire d'autant plus qu'il en est au fond à la fois au contact, mais privé de promenades, je dirais, libres. Donc ça, c'est une question que j'aimerais vous poser, puisque vous avez lu Gracq et la forme d'une ville. Quel parallèle vous voyez dans votre attachement à Istanbul, dans votre manière de l'avoir peut-être imaginé plus que vécu, comme le dit Gracq à propos de Nantes, et dans cette influence dans la première femme?
Bon, quand j'ai écrit ce texte, je n'avais pas encore lu La forme d'une ville de Julien Gracq. Il se trouve que j'ai été invité par le Centre d'études avancées et de la ville de Nantes l'année dernière seulement. Et à cette occasion, j'ai lu ce très beau livre qui parle de Nantes où... son auteur a été interne dans un lycée. Et évidemment, nous avons ressenti peut-être un peu la même chose, la même frustration en tant qu'interne. C'est-à-dire, moi, en ce qui me concerne, j'étais donc au lycée de Galatasaray, et ceux qui connaissent Istanbul le savent, cet établissement est en plein quartier de Beyoğlu, quartier des plaisirs. Mais si vous ne pouvez pas sortir et que vous êtes attentif aux lumières de ce qu'on appelait à l'époque des pavillons, c'est-à-dire des maisons closes, en quelque sorte, cela crée quand même une frustration. Et même, vous pouvez après être écrivain. Ça a été un peu mon cas. Et des années plus tard, quand... Et j'ai lu La forme d'une ville de Gracq, je suis tombé donc sur cette même idée de frustration de l'interne par rapport à la ville qu'il a formée, justement, et où il se trouve. Cela dit, en classe terminale, nous avions la possibilité de sortir. Et juste en face se trouvait Çiçek Pasajı, comme il est question de ce lieu dans La première femme, et c'est là où nous avons bu avec mes camarades de classe nos premières bira argentines. J'ai été très intrigué par ce mot Bira Argentine. Pourquoi Argentine? Je n'en sais toujours rien. C'est-à-dire, c'était de la bière pression que nous consommions sur... Il n'y avait pas de table à cette époque, mais il y avait des tonneaux. On restait debout et on buvait comme ça de Bira Argentine. Et la plupart de mes camarades, maintenant, sont devenus soit ambassadeurs, soit ministres, et moi, je continue d'écrire.
Avez-vous des questions à poser à Nedim Gürsel ou Muriel Rosenberg à propos de ces riches échanges autour de la géographie de la ville d'Istanbul, de ses espaces, de ses regards croisés entre géographes et écrivains? Oui, alors. La Dan, si tu... Oui, alors si tu veux bien, voilà, parler dans le micro de façon... On ne t'entend pas très bien et surtout, la soirée est enregistrée.
Merci. Bonsoir, Monsieur Gürsel. Je voudrais vous poser une question, pas en lien vraiment avec votre intervention sur la ville d'Istanbul, mais c'était sur votre première impression après votre retour à Istanbul, après vos années d'exil dont on connaît bien. Qu'est-ce que vous avez gardé de ce retour après votre séjour à Paris?
Bien, j'ai quitté Istanbul en septembre 1971, d'une manière d'ailleurs clandestine, puisque j'avais un procès dans un tribunal militaire. Après avoir passé 4 mois très agréables en cachette dans la maison d'un ami, mais à Antalya, et jusqu'à l'arrivée de Cevit au pouvoir en 1973, donc pendant plus de 2 ans, je n'ai pas pu retourner à Istanbul. Quand Cevit est arrivé au pouvoir en 1973, il y a une amnistie générale. J'en ai profité pour rentrer. Et à l'époque, on arrivait encore parfois par bateau, comme tous ces grands écrivains voyageurs. Donc, la ville se donnait à vous au fur et à mesure que le bateau avançait et vous, on voyait évidemment du pont, cette fameuse silhouette d'Istanbul avec les lignes courbes et les lignes verticales. Ça, c'est la silhouette à la Loti, en quelque sorte, de la ville. Mais maintenant, tout le monde y va en avion. Alors, moi, en 73, c'était la première fois que je prenais l'avion. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est l'absence de la silhouette de la ville. Parce que quand vous atterrissez à l'aéroport de Yeşil, à l'époque, ça s'appelait d'ailleurs Yeşilköy et non Atatürk. Enfin, c'est à vérifier. En tout cas, il n'y avait qu'un seul aéroport. Et c'était un peu décevant, mais en même temps, j'étais très ému parce que j'allais retrouver mes amis, ceux qui étaient en prison pendant cette période de répression. Et aussi ma mère. Et très vite, j'ai renoué avec la ville, comme si je n'étais pas parti, comme si ces 2 années passées en France n'avaient pas eu lieu, comme si je n'étais pas parti. J'avais ce sentiment-là. Et puis Paris quand même m'appelait. Et Paris qui allait devenir mon port d'attache s'est imposé et J'avais commencé aussi des études de littérature à la Sorbonne. Donc, au bout d'un mois, je suis retourné à Paris. Et j'ai fait quand même le va-et-vient, autant que mon budget d'étudiant me permettait, pendant très longtemps. Et après ma thèse, je suis rentré définitivement en Turquie. Je n'avais pas l'intention de m'installer en France, que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Et il y a eu un autre coup d'état militaire, celui du général Evrin, le 12 septembre 1980. La nuit du 11 septembre 1980, j'étais en présence d'un professeur de linguistique français qui venait de faire une conférence à l'Université d'Istanbul, et nous l'avions invité au restaurant Régence, où on buvait de la bonne vodka russe à l'époque. Il y avait ces trois vieilles dames, ces trois sœurs qui servaient de la bonne vodka jaune. Et on avait bu un peu, et le professeur français avait demandé à son collègue, M. Vardar, Feu Vardar, professeur de linguistique à l'Université d'Istanbul, que les choses allaient mal et s'il n'y avait pas un risque de coup d'État, étant donné le chaos politique. Et feu professeur Berke Vardar lui a expliqué pendant tout notre dîner, bien arrosé, que l'armée turque était très fidèle à la démocratie, qu'il n'y avait aucun risque de coup d'État militaire, malgré ce qui se passait, etc. Je sors vers minuit, je marche vers la place de Taksim, mais déjà les chars étaient là. Le coup d'État militaire avait commencé. Et évidemment, je ne suis pas resté parce que deux de mes livres, je n'en avais écrit que deux d'ailleurs, Un long été à Istanbul et La première femme que vous avez citée, tous les deux ont été saisis par la junte militaire. Un long été pour offense aux forces de sécurité nationale, l'article 159 du code pénal turc, et La première femme pour offense à la morale publique. Donc je ne pouvais pas rester. Et une deuxième fois, d'une manière clandestine, j'ai regagné Paris, qui n'a pas fait de moi un Français, comme aurait dit Montaigne, maire de Bordeaux à une époque, mais l'écrivain turc que je suis devenu, puisque je suis resté fidèle à ma langue, mais je ne peux pas aujourd'hui dire que je suis un Istanbouliote, je suis peut-être davantage parisien, mais Istanbul reste pour moi cette ville où j'ai vécu mon adolescence, et surtout ce thème redondant que mes lecteurs peuvent découvrir dans mes livres.
D'autres questions? Non, vraiment, vous êtes conquis.
Personne n'intervient, je dirais quand même un petit mot sur l'étymologie de la ville d'Istanbul. N'ayez aucune crainte, je ne vais pas vous faire un cours magistral, même si on se trouve dans l'université, parce que c'était un sujet de controverse, l'étymologie du mot d'Istanbul, et même un sujet de différend à une époque où une vraie tension politique existait entre la Grèce et la Turquie. Certains, très sérieusement, en reprenant notre fameux le récit de voyage de notre fameux Evliya Çelebi, ont affirmé que Istanbul venait de Islambol. Islambol. Les musulmans seraient très nombreux. C'est vrai que Evliya Çelebi, qui invente pas mal de choses, a eu l'idée d'écrire que l'étymologie du mot d'Istanbul avait un rapport avec l'islam. Oui, Istanbul, Istanbul, oui, si vous voulez. Mais ça n'a rien à voir, évidemment. Et moi, j'ai osé écrire à l'époque un article en disant, tout en n'étant pas linguiste, qu'il était évident pour moi que ça venait du mot stinpoli, le mot grec stinpoli, à la ville, polis. Eh bien, ça n'a pas plu à tout le monde. Je n'ai pas eu droit à un procès en bonne et due forme. Mais aujourd'hui, évidemment, tout le monde sait que Istanbul, ou Constantinopolis, la ville de Constantin, évidemment, l'origine, c'est grec. Enfin, c'est grec et romain. Les Turcs ont conquis la ville, comme je l'ai longuement raconté dans mon roman, Le roman du conquérant, donc au XVe siècle. Et la population grecque d'Istanbul, qui n'existe malheureusement presque plus, ce sont les véritables citadins. Ils étaient là avant l'arrivée des Turcs. Mais dans les années 90, et même maintenant, avec ce discours nationaliste dominant, il est préférable de ne pas le dire, de ne pas le rappeler. Donc Istanbul, aujourd'hui, à travers plusieurs discours littéraires, politiques, linguistiques, reste toujours d'actualité. Ce qui n'est pas le cas des autres villes de la Turquie. Et dans ce sens, mais aujourd'hui, elle est devenue une mégapole, hein, comme on dit, avec plus de 14 millions d'habitants. Et c'est un monde en soi. C'est la population d'Istanbul est beaucoup plus importante que toute la population de la Grèce, par exemple. La Grèce a 10 millions d'habitants, Istanbul en a 14. C'est pour vous donner une idée de l'importance à la fois démographique, mais aussi politique, de la ville, aussi économique. C'est pour cela que je disais dans mon article paru dans Le Monde qu'on ne pouvait pas envisager une Europe sans qu'au moins cette ville soit intégrée. Alors ça arrangerait tout le monde. Vous savez qu'il y a bientôt les élections européennes et les deux grands pays de l'Union européenne, la France et l'Allemagne, sont contre l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, eh bien, on peut proposer à Mme Merkel et à M. Hollande de laisser tomber toute l'Anatolie, mais d'intégrer au moins Istanbul comme un pays. N'est-ce pas? Un pays de 14 millions d'habitants, pourquoi pas? Je crois qu'il n'aurait aucune objection, ni l'un ni l'autre.
Mais dans la présence d'Istanbul et notamment sa présence littéraire, est-ce qu'il fait le lien entre l'Occident et l'Orient? C'est le Bosphore qui paraît si important. Et j'ai l'impression, en fait, à vous entendre, que finalement, chez Orhan Pamuk, cette présence est plus forte. Est-ce que vous... comment est-ce que vous situeriez tous les deux par rapport à... Parce qu'on parle surtout de la ville, on parle de ses lieux, on parle du fait d'être présent dans la ville et de regarder vers le Bosphore, mais finalement, on parle pas finalement de ce lien liquide entre deux continents. Est-ce que ce sentiment n'est pas très présent chez Pamuk, justement? Est-ce qu'il ne donne pas une identité à cette ville de cette façon?
C'est le Bosphore qui donne l'identité à la ville. Moi, c'est ce que j'ai ressenti dans la lecture de ce livre. Et il ne décrit pas le Bosphore. Il l'évoque à la manière dont je l'ai dit pour d'autres paysages, par des événements, par des gestes, par des marches. Donc on marche le long du Bosphore. Les navires, les accidents, ce dont parlait Nedim Gürsel tout à l'heure, il en parle. Hein. Mm-hmm. Je pense que c'est quelque chose qui revient dans toute la littérature stambouliote. Le Bosphore, c'est le lieu des grands incendies, des accidents de pétroliers russes ou soviétiques, selon le moment que l'on décrit. Hein.
Et est-ce que cette image du lien liquide est aussi forte dans d'autres villes, par ailleurs, cette présence? On sait souvent que pour les écrivains, le fleuve a une importance dans la ville. Mais là, la situation d'Istanbul entre Europe et Asie est très particulière. Est-ce que vous diriez que ce Bosphore a une importance... comment est-ce que vous qualifieriez l'importance en fait, de cette entité au sein d'Istanbul dans cette littérature?
D'abord, pour l'élément liquide, il y a Venise. Mmh. D'ailleurs, les deux villes ont eu, durant leur histoire réciproque, beaucoup de liens. Mmh. J'en ai parlé dans un de mes romans qui s'appelle « Les turbans de Venise ». J'ai essayé de superposer les deux villes narcissiques parce qu'elles s'admirent, pour moi, leur reflet, enfin... Donc, je crois que Venise et Istanbul, on peut les comparer sur ce plan par rapport à la présence de l'eau. Mais quant au Bosphore, cela me semble un peu paradoxal, parce que le Bosphore n'a pas été habité pendant très très longtemps. Pour moi, l'identité de la ville, c'est ce qu'on appelle la presqu'île historique, c'est-à-dire Istanbul intramuros, en gros... La vieille ville. La vieille ville où il y a tous les monuments, la plupart des monuments byzantins et ottomans. Le Bosphore a été habité, les premiers yalos ont été construits au début du XVIIIe siècle. Il y avait quelques petits villages de pêcheurs auparavant. Mais à l'époque de Byzance, le Bosphore, les deux rives du Bosphore n'étaient pas habitées. Il y avait quelques monastères, peut-être. Donc, pour moi, l'identité de la ville par rapport à l'héritage historique n'est pas, comme l'a écrit Orhan Pamuk, au Bosphore. Mais lui, il a un petit appartement à Djihangir qui surplombe l'entrée du Bosphore. Alors évidemment, il voit de sa table de travail le Bosphore. Mais pour moi, le Bosphore, ce n'est pas là. Orhan Pamuk ne voit pas le Bosphore. On ne voit pas le Bosphore de Djihangir. On voit Üsküdar. Moi, j'ai habité le Bosphore. Le Bosphore, pour moi, c'est à partir des deux forteresses. Un peu Çengelköy, peut-être, un peu Ortaköy, mais c'est à partir de ces deux quartiers que le vrai Bosphore commence, que vous entrez vraiment dans un autre univers. Vous êtes loin du centre, vous êtes loin du bruit. En tout cas, c'était le cas à l'époque de mon adolescence. Et puis, il y a ces deux forteresses. Et après, vous avancez vers la mer Noire. Et là commence le véritable Bosphore, dont parle aussi Pamuk, bien sûr. Il en parle d'ailleurs très bien. Mais chacun a, si vous voulez, sa manière de voir les choses. J'ai découvert, à propos de la ville d'Istanbul, un terme qui m'a fait réfléchir, c'est déshérence. J'ai découvert ce terme dans un article de Roland Barthes sur Pierre Loti. Et cet article a changé mon regard, le regard que je portais jusque-là sur Loti. Et par exemple, dans La première femme, je le cite, mais c'est une sorte d'exotisme de pacotille pour moi. C'était. Mais l'article de Barthes m'a ouvert les yeux, je l'ai relu et j'ai trouvé que c'était un écrivain intéressant. Parce que justement, dans Loti, la ville n'a pas d'héritier. C'est-à-dire, il parle... Orhan Pamuk a parlé de usune, de tristesse par rapport aux écrivains turcs à Tampınar. Et puis les photos en noir et blanc d'Aragüler, évidemment, confirment cette approche. mêlée à la tristesse, à une sorte de mélancolie. Mais cette mélancolie, pour la première fois, bien avant Tampounard et d'autres, a été soulignée par Pierre Loti. Et dans ce sentiment de mélancolie, il y a ce que Roland Barthes appelle justement des errances par rapport au patrimoine, au monument historique laissé à l'abandon, etc. Et les cimetières, tout ça. Pierre Loti en parle très bien.
Avez-vous d'autres questions pour nos deux invités ? Si, oui, une question au fond.
Bonjour. Vous avez dit que la Turquie, enfin Istanbul a intérêt à rentrer dans l'Union européenne, mais est-ce que les Turcs et le pays en soi a intérêt à rentrer dans l'Union européenne aujourd'hui, à l'heure actuelle? Et aussi, je veux dire que vous avez dit que Istanbul seul pouvait rentrer dans l'Union européenne, mais il y a quand même, on va dire, au moins 13 millions d'habitants d'Istanbul qui sont profondément attachés à leur région natale d'Anatolie. Voilà.
Bon, l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne est un long, est un vaste sujet. Quand les négociations d'adhésion ont commencé en octobre 2005, j'ai écrit un petit livre directement en français qui s'appelle « La Turquie, une idée neuve en Europe ». Pour convaincre les Français, à mon humble niveau, que l'adhésion de la Turquie serait une bonne chose pour les deux parties. Puis il y a eu la présidence de M. Sarkozy qui était non seulement contre, mais très très hostile, et qui n'a pas arrangé les choses. Et la Turquie n'a pas aussi de son côté fait les réformes démocratiques nécessaires. Elle a fait quelques réformes. Elle a montré un désir d'adhésion au début du règne. Maintenant, il faut dire les choses comme elles sont, du règne de M. Erdogan. Aujourd'hui, je crois que la page est tournée. Malheureusement, parce que j'étais un des, et je reste toujours, un des fervents partisans de l'adhésion de mon pays à l'Union européenne. J'ai un peu milité dans ce sens, en écrivant, en intervenant, en allant rencontrer les jeunes en Turquie, dans les universités. Mais là, du côté de la Turquie, non seulement le gouvernement, la majorité de la population ne manifeste aucun désir. Avec cette dérive autoritaire du pouvoir, Premier ministre, de toute façon, l'Europe est déçue. L'Europe, de son côté, est en crise. Donc, je ne vois pas comment un pays comme la Turquie, qui a 76 millions d'habitants, peut adhérer. C'est remis à la calende grecque, l'adhésion d'Istanbul. Mais je plaisantais un peu en disant que Istanbul comme pays peut être intégré. Il est vrai qu'il y a 13 millions d'habitants d'Istanbul qui vont chaque jour de l'Asie à l'Europe. Ils retournent en Asie le soir chez eux. Et c'est pour cela que le cas de la Turquie est intéressant. Justement parce que c'est un pont. Parce que l'Europe à l'époque aurait dû peut-être l'intégrer pour avoir une vraie politique dans le Moyen-Orient et dans le Caucase, parce que la Turquie est une puissance régionale. Et une Turquie démocratique, respectueuse des critères de Copenhague, respectueuse des valeurs démocratiques européennes, arrangerait tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui, à mon sens.
On va. Non, je répète juste. Donc je répète juste la question quand même pour qu'on puisse comprendre la réponse de Monsieur Gürsel. Votre question, c'est bien, est-ce qu'il ne faut pour aimer Istanbul ne pas y vivre, hein, c'est ça?
Vous savez, là, on a fait un peu trop l'éloge de la ville, mais vivre quotidiennement à Istanbul n'est sûrement pas une partie de plaisir. On n'a pas parlé de la circulation chaotique, on n'a pas évoqué les difficultés de la vie quotidienne, on n'a pas évoqué tous ces problèmes d'urbanisme et de rente et de tout ce que vous voulez. On n'a pas évoqué la vie chère, qui fait partie intégrante de la vie quotidienne de l'Istanbuliode. Alors, est-ce qu'il ne vaut pas mieux de rêver d'Istanbul au lieu d'y vivre? Oui, je crois que la question se pose.
Moi, je voudrais donner la réponse de Pamuk, qui est également celle qu'on trouve concernant d'autres villes que Istanbul. Je parle du Caire et d'un roman qui s'appelle Les années de Z. Peut-être aussi que la ville où nous vivons, tout comme notre famille, nous l'aimons parce que nous n'avons pas d'autre solution. Mais il nous faut inventer les lieux et les raisons à venir de notre amour pour elle. Nous n'avons pas d'autre ville.
Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions... Non, c'est sur cette invitation à rêver d'Istanbul que nous allons nous quitter ce soir. Je vous propose d'ailleurs de nous retrouver dans quelques minutes dans le foyer pour boire un verre et donc s'imaginer ni en train de boire du raki ni de la bière argentine, mais juste un verre et donc rêver sur... En fait, aux rives du Bosphore. Je vous invite donc à nous retrouver également au mois de juin pour la dernière manifestation de la saison culturelle, hein, une soirée qui sera consacrée là aux collections de bibliothèques de la Stadtbibliothek de Munich et à ses programmes de numérisation. Et je vous remercie de votre attention. Je vous remercie donc nos deux invités, Muriel Rosenberg, Nedim Gürsel ainsi que les Cafés Géographiques. Et je vous dis à très bientôt et bonne soirée.